à la fin de votre livre se trouve la retranscription d'une conversation que vous avez avec elle, où elle dit ce qu'elle ressent après avoir lu votre manuscrit, finalement.
Oui, je voulais à la fin que les lecteurs comprennent qu'elle a lu le livre et qu'elle leur explique qu'après avoir découvert son histoire, ce qu'elle pouvait en penser, puisque tous les lecteurs qui vont découvrir ce livre, pour beaucoup, ils avaient lu la fable sur vivre avec les loups. Donc il est important qu'ils comprennent combien son destin est douloureux et lourd, parce que je crois qu'on peut avoir franchement que de la compassion pour une enfant qui est laissée à 4 ans dans cet état de détresse, et donc comprendre qu'elle a pu inventer quelque chose. Et donc que le lecteur sache aujourd'hui, après avoir lu sa véritable histoire, qu'est-ce qu'elle pouvait en penser? Mais ce que je peux vous dire, c'est que le jour où je lui ai apporté vraiment la fin de l'enquête, si c'est les pages les plus dures du livre, où on voit son père, en fait, se faire passer pour un évadé, avec deux autres prétendus évadés qui sont en réalité des agents de la Gestapo, toutes ces pages-là que j'ai découvertes dans le dossier militaire, qui était très difficile d'accès, elles sont vraiment affreuses.
Oui, et là, ils essayent de piéger, sous cette fausse identité de rescapés, ils essayent de piéger des résistants.
Ils essayent de piéger, c'est encore pire, ils essayent de piéger les femmes des résistants que Robert de Waal a déjà livrées aux Allemands. Donc les femmes, elles sont encore libres, alors que les maris sont dans les camps en Allemagne. La Gestapo ramène Robert de Waal à Bruxelles et lui dit « Vous allez vous faire passer pour un évadé ». Avec deux autres, les deux autres, ils sont agents de la Gestapo, et donc il se fait passer pour des évadés, il va voir les femmes de ses anciens camarades de résistance pour savoir où sont cachées les armes qu'en tant que résistants, ils ont volé aux Allemands en 40-41. Ça, Robert de Waal a participé d'ailleurs à ces vols d'armes. Et les Allemands maintenant disent énormément d'armes ont été volés par ce réseau, on veut les récupérer. Donc maintenant, vous allez aller voir les femmes de vos anciens camarades, vous allez dire que vous êtes un évadé, vous allez dire il nous faut des armes pour passer à Londres, et comme ça, les femmes, vous connaissant, vont vous donner les armes, et donc, comme ça, on saura où sont les armes, et évidemment, les femmes seront fusillées. Et il fait cette chose-là. Et ça c'est vraiment, quand je suis obligé de lire ça et de raconter ça à sa fille, c'est une journée vraiment épouvantable, quoi. Elle est dans ma chambre d'hôtel et elle va vomir dans la salle de bain et vous êtes tout seul avec elle, enfermé au fond des États-Unis, avec pas de psychiatre pour vous aider, rien du tout. C'est vraiment difficile, quoi. Et il fallait vraiment qu'elle ait confiance en moi. Et là, j'ai toujours ce discours que je m'applique à moi. On a notre destin et on fait quelque chose de son propre destin. C'est pas une honte d'être l'enfant d'un tel ou un tel. On n'est que l'enfant, on n'a pas rien commis de... Voilà. Mais ce destin-là, on doit l'accepter et en faire quelque chose. On le retourne, on en fait une œuvre. Modiano fait une œuvre du destin de son père.
Et vous aussi.
Et moi aussi. Et moi aussi, je vous remercie.
Et d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait penser que Robert de Waal, dont vous dites aussi, vous avez bien dit, et dans le livre et dans l'entretien que nous venons d'avoir, qu'il a été résistant au départ. Au départ, son destin a basculé, et d'une certaine manière, c'est ce basculement vers la traîtrise, vers la trahison, qui fait que le destin de sa fille a aussi basculé, mais pour le réhabiliter. Vous avez finalement reconstitué le portrait de son père par la vérité, alors qu'elle avait essayé par la femme.
Oui, tout à fait. Oui, il faut dire que cet homme est résistant au départ. Il démarre avec les plus belles intentions du monde. C'est dans les lettres qu'il écrit que j'ai lues « Je veux mourir dans le drapeau belge ». Il est lieutenant de réserve chez les grenadiers. Il a fait la guerre et personne ne le force à entrer dans la résistance après la défaite. Et pourtant, il entre dans la résistance. Le problème fondamental, et c'est pour ça qu'on ne peut pas jeter la pierre à personne dans ces cas-là, le problème fondamental, c'est que vous ne connaissez jamais, avant d'avoir commencé, votre force de résistance dans la guerre, dans une guerre aussi horrible. Et vous ne pouvez pas préjuger de ce que vous allez dire lorsque vous faites arrêter par erreur votre propre femme, qui est une jeune femme adorable, qui est la mère de votre enfant, et que donc, en fait, vous êtes en train de détruire toute votre famille pour un acte de résistance, certes glorieux, mais c'est lourd à payer, quoi. Et les Allemands le comprennent très bien, puisque je crois que dans les premières heures, ils lui font le chantage en disant « on relâchera votre femme si vous collaborez avec nous ».
Il faut dire que l'arrestation de sa femme vient du fait que, parce qu'on ne l'a pas dit, alors ça devient un peu bizarre. En fait, il voulait dire à sa femme, va chercher notre petite fille que je la vois une dernière fois. Oui. Et elle a compris, va chercher les armes pour les cacher.
C'est ça le malentendu. Il est sur les marches de l'hôtel de ville de Schaerbeek, entouré de militaires. Il voit sa femme dans la foule, puisque tout le monde a su tout de suite dans la ville que les Allemands faisaient une descente à l'hôtel de ville. Il voit sa femme et il lui fait signe. Il l'explique dans les lettres que j'ai. J'ai voulu dire à Germaine d'aller chercher Monique parce que je voulais l'embrasser une dernière fois. Et elle sait qu'il cache un fusil, une arme. C'est passible de mort, hein, de cacher une arme à ce moment-là. Cache une arme. Et donc, elle court à toute vitesse. Rue Floris, c'est à 500 mètres seulement. Elle court rue Floris. Elle met le fusil sous son manteau. Et évidemment, les Allemands l'ont repéré tout de suite. Elle n'a aucun sens de la résistance. Donc, ils la suivent. Elle sort de chez elle avec le fusil caché sous le manteau. Ils l'arrêtent. Et elle mourra 5 ans plus tard à Ravensbrück, gazée. Donc c'est quand même un destin absolument épouvantable.
Et c'est aussi, je ne sais plus qui le dit dans le livre, c'est aussi le destin d'un homme ordinaire finalement, qui a été frappé par les événements et qui a réagi comme un homme ordinaire réagit. On ne peut pas dire qu'on a un destin de héros avant d'avoir été confronté à l'épreuve.
Exactement. C'est un homme ordinaire. Aussi faible que nous, que moi, en tout cas. Moi, je ne sais pas si dans cette situation-là, j'aurais tenu longtemps. Et c'est pour ça que je peux éprouver que de l'empathie. Mais j'éprouve même de l'empathie pour lui parce que je mesure en lisant toutes ses lettres et ensuite tout le dossier judiciaire à quel point, en fait, il sombre peu à peu dans la folie. La folie, à force de souffrir dans l'isolement, dans une cellule où il fait froid, où il fait noir, où on ne vous donne pas à manger, où il sait que sa femme est dans l'aile de la prison à côté. Et en fait, peu à peu, ces lettres sont de plus en plus déraisonnables et dérapent complètement. Et les Allemands jouent de ça avec une violence inouïe.
On découvre dans ce récit, dans ce document, que Monique de Waal n'a jamais voulu vraiment écrire ce livre, qu'elle a été poussée par son éditrice américaine. Est-ce que, lorsqu'elle a su que vous alliez écrire ce livre, son accord a été immédiat ou est-ce que les réticences qu'elle avait eues avec son éditrice américaine ont eu une sorte de réminiscence chez elle?
Non, son accord a été immédiat. Je suis la première personne à venir la voir à Boston avec des bonnes intentions, je dirais, voilà. Puisqu'en fait, elle est traquée. J'ai entendu le téléphone sonner 50 fois, hein, c'était toujours pour la traiter de menteuse. Et elle est traquée aussi par des équipes de journalistes qui ne se présentent pas et qui filment de l'extérieur son jardin et sa maison. Donc il y a une ambiance vraiment à se suicider dans cette maison. Et je suis le seul qui l'ait appelé plusieurs fois de Paris en lui disant « je vais venir et on va essayer de connaître la vérité ». Donc elle est d'emblée d'accord, mais ce que je dois dire c'est que lorsque je lui dis maintenant on va accéder au dossier de la justice militaire belge, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et elle, son grand espoir, c'est que je vais trouver de quoi innocenter son père. Et c'est pour ça qu'elle me dit, évidemment, Lionel, je vous donne une procuration, puisqu'il me fallait une procuration d'un ayant droit, sans ça on n'a pas accès à ce type de dossier. Elle me donne cette procuration en espérant que je vais pouvoir l'innocenter, et je trouve tout le contraire. Je trouve des choses tellement affreuses, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que je vais à peine oser lui expliquer. Malheureusement, je ne peux pas l'innocenter. C'est vrai que je crois que jusqu'à la fin, pendant tous les mois où on a travaillé si près l'un de l'autre, elle a espéré que je pourrais réhabiliter son père.
C'est peut-être ce que vous avez fait d'une certaine manière en lui rendant sa vérité, même si elle est terrible.
Moi, je trouve, et je trouve qu'aujourd'hui, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, hein, Monique de Waal, elle est tombée dans son jardin, je crois qu'elle s'est cassée le col du fémur. Vous voyez, on est dans les détails de la vie de tous les jours, et elle m'a appelé pour m'en parler. Je trouve qu'aujourd'hui, elle va tellement mieux qu'en 2008, quand je l'ai vue la première fois, mais tellement mieux. Elle a les deux photos de ses parents dans son salon. C'est une femme qui vit auprès d'un homme qui l'aime. On est dans la vérité, voilà. Plus personne n'ose l'insulter, parce que maintenant, grâce à ce livre, je ne sais pas qui oserait l'insulter quand on voit le destin qu'elle a, il faut quand même. Hein. Donc, on ne l'insulte plus. Il y a une forme de respect. Grâce à Boris Cyrulnik, on comprend pourquoi elle a raconté ça. Donc quand même, sur la fin de sa vie, puisque maintenant elle a 74, 75 ans, elle est quand même dans une espèce de paix et de réconciliation avec les siens. Et je trouve ça bien, je trouve ça mieux que de disparaître sur survivre avec les loups, et encore pire que de disparaître sur vous n'êtes qu'une menteuse et on n'a jamais allé chercher ce que vous cachiez. Voilà, ben maintenant on sait ce qu'elle cachait.
Lionel Durouin, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce document qu'il faut vraiment, vraiment lire. C'est un extraordinaire tuteur de résilience sous forme de livre que vous avez offert à Micha de Fonseca, dont le vrai nom est Monique de Waal. Le livre s'intitule « Survivre avec les loups, la véritable histoire de Micha de Fonseca ». C'est un document paru chez Ixo Éditions. Merci Lionel Durouin.
Je vous remercie beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.